Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Deeply Rooted et parler rap avec vous pendant une heure, explorer la carte des États-Unis, ses villes, ses genres musicaux. Pour m'accompagner, à ma gauche Joachim, toujours présent.
Toujours là, ça fait plaisir de revenir pour un nouvel épisode.
Et Momo en face de moi.
Néo YouTuber, concurrent direct de Squeezie et de Cyprien le Foufou, bah, très content d'être là. Hein ?
Et ben ravi que tu sois avec nous. Vous avez maintenant l'habitude de nous côtoyer tous les trois. On vous avait laissé sur une trilogie qui j'espère vous a plu sur la trappe avec donc le dernier épisode Trapilogue, le 15e de l'émission qui est sorti il y a un mois maintenant et qui est sorti et disponible sur le nouveau site Momo dont l'adresse est
www.deeplyrooted.fr.
Voilà un superbe site qu'on vous invite à aller consulter et qui sera enrichi régulièrement. Donc on change de ville, on change de genre, on retourne dans un endroit par contre qu'on a déjà évoqué, c'est Chicago. Hein, vous avez parlé de là-bas des Chief Keef, Lil Durk et autres... autre mec déchaîné qui faisait de la drill, donc c'était la 9e émission qui parlait de la drill de Chicago. Et ce soir on va parler d'un autre genre. Est-ce que Jojo tu peux nous en dire à deux mots juste pour donner un petit avant-goût?
Ouais, bah si la drill c'était un peu le côté plus rude et gangsta hardcore de Chicago, là on va aborder le côté plus soft, un peu moins street, ce qu'on a communément parfois appelé le middle class rap, le rap de classe moyenne, avec des artistes tels que Common et Kanye essentiellement. Donc,
voilà. Ok, ben on va explorer ça pendant cette émission. On s'écoute un premier son justement de Common.
Qui est extrait de l'album The Corner, sorti en 2005.
C'était de l'album B, pardon.
Le morceau s'appelle The Corner. Et ça a été produit par Kanye West d'ailleurs, on se retrouve juste après.
Allez, à tout de suite. De retour dans Deeply Rooted après ce son de Common produit par Kanye West, c'était The Corner. Du coup on retourne à Chicago, je l'avais dit, on en avait parlé un petit peu dans l'émission 9 sur la drill. Donc on avait fait un petit portrait rapide de la ville, de la Windy City comme on l'appelle, donc la ville des vents, traduit en français. Ça
la fait ville venteuse quoi.
Voilà, ça fait toujours moins bien. Non, j'ai vu la ville des vents sur un article.
Okay, ouais.
Donc la ville un peu froide et industrielle du nord, avec sa criminalité qui est malheureusement aussi réputée que sa musique. Criminalité qui est aussi présente aujourd'hui avec pas mal de meurtres.
Ouais, complètement. Bah, Chirac, qu'on l'avait dit, ça, le surnom de la ville c'est Chirac parce que par rapport à l'Irak, quoi, forcément.
Donc, qui est particulièrement violent, mais aussi au début du 20e avec Momo. Qui c'est qu'il y avait au début du 20e siècle ? À Chicago.
Al Capone,
bien sûr.
Ah oui, bien sûr, la prohibition. Oh, tu sais, moi j'étais.
À la prohibition, interdiction de l'alcool, donc des trafics en tout genre et donc criminalité. Et sa pauvreté également qui est particulièrement reconnue, notamment au sud de la ville, qu'on verra plus tard, sera sa petite importance bien sûr dans l'émergence du son. Et on avait évoqué dans l'émission 9, je crois rapidement, l'historique musical de la ville. On est obligé d'en parler un petit peu parce que Chicago, ça reste quand même une place forte, avec dans les années 20 et 30 le jazz et le blues qui ont totalement explosé, notamment avec l'arrivée des émigrants, des populations noires américaines qui venaient du sud. Donc avec le Chicago Blues qui est un genre à part entière, etc.
On peut pas confondre avec le Chicago Bulls bien évidemment.
Ouais, ok. et du coup, comme c'est une ville ensuite qui est très riche culturellement et avec une population aux origines très diverses, elle va accoucher de plein de styles différents. Donc là, jazz et blues, mais ensuite la funk, soul, avec funk par exemple le groupe Earth, Wind and Fire, qui vient de là-bas.
Moi j'avais déjà dû le citer dans la précédente émission, mais il faut absolument écouter Curtis Mayfield, c'est de la soul. Oui, voilà, bon,
alors Earth, Wind and Fire, je connaissais pas forcément de nom, mais en fait tout le monde connaît les chansons, c'est des trucs classiques qui passent.
Ouais, c'est à moitié disco.
Exactement. Et ensuite l'essor de la house music dans les années 80. Grosse ville de house, alors qu'il y a Détroit à côté qui est plus techno, qui est pas très loin, qui est une grosse ville de musique aussi.
Ouais.
Dont on parlera.
Un lac les sépare.
Voilà, dont on parlera forcément à un moment. Et au niveau du rap, on va dire que c'est au début des années 90 que ça commence à faire son trou avec des gros artistes comme Common qui va arriver à peu près
surtout
à ce moment-là.
Common, ouais.
Et Twista aussi.
Twista un peu plus tard, ouais. Bah, du coup, ouais, on va revenir sur Common qui est le premier rappeur important à sortir de Chicago. Je vais quand même donner son nom complet parce que c'est assez massif. Il s'appelle Lonnie Current Jaman Shuka Rashid Lin. Voilà. Le mec n'a pas moins de 6 particules dans son nom. excusez du peu. Alors pour le coup, lui, il grandit dans le sud de Chicago, donc il est n'est pas forcément middle class tel qu'on l'avait présenté au début de l'émission, mais il a quand même ce truc qui vient plus de East Coast. Je pense qu'une de ses influences majeures, ça va être Tribe Called Quest, tout ce qui est Native Tongue avec De La Soul aussi, ce son là un peu, on pourrait dire de rap gentil quoi. Certains parlent même de rap conscient. Il se fait d'ailleurs appeler Common Sense au début de sa carrière. Common Sense, le sens commun, quoi. Ça fait un peu le mec moralisateur, peut-être, on pourrait croire. Il a dû abandonner ce nom parce qu'il y avait un groupe de reggae qui s'appelait comme ça et qui l'ont collé un procès, quoi. Donc il a dû arrêter de s'appeler comme ça. Mais c'est pas seulement un rappeur conscient dans le sens justement moralisateur un peu cliché. Il aime bien aussi déconner et c'est ça aussi qui rend intéressant. Il a aussi ce côté hyper. Hyper expérimental. Il a sorti 12 albums aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui est pareil. Ils sont tous différents. À chaque fois, il tente des choses. Un changement de cap à chaque fois. C'est ça qui le rend super intéressant. On peut d'ailleurs voir sa carrière comme une sorte de croisière dans les paysages de la musique noire américaine. Il va explorer tous les styles, le blues, le funk, la soul, etc.
Il est marqué par la ville de Chicago en elle-même, ce qu'on disait un peu au début.
Ouais, certainement, ouais. Enfin, de toute façon, il est très attaché à la ville de Chicago, parce qu'il y a toujours un morceau quasiment dans chaque album qui est dédié à sa ville. Mais comme je disais, on peut concevoir sa carrière comme une déambulation dans tous les territoires de styles de musique différents. Et on peut aussi découper sa discographie en fonction des producteurs avec lesquels il a travaillé. Au début de sa carrière, il travaille avec NoID, qui est surnommé le Godfather of Chicago Hip Hop. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et c'est un producteur qui, lui, est justement plutôt influencé East Coast, basé sur le sample. Il y a un côté quand même assez mélodieux, assez soulful, d'art plus qu'à New York. Il y a un côté vraiment plus mélodieux, plus doux, quoi. Là, on est au début des années 90, donc lui commence le premier album en 92, je crois. Deuxième album, Resurrection, en 94, qui lui amène un vrai succès critique. Il y a un vrai palier de franchi entre les deux albums. Il est bien meilleur que le premier. Il est déjà un peu en mode daron, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle I Used to Love Her. En fait, il parle du hip-hop. Et déjà à cette époque-là, il dit ouais, machin, le rap, depuis que ça allait arriver à la West Coast, ils ont un peu sucé la queue des producteurs, etc. Et tu vois, donc, déjà, il faisait un peu le vieux con, tu vois, à l'époque. Okay. En vrai, aujourd'hui, il est plus du tout comme ça. Il est moins.
Common le réac, quoi.
Voilà, c'est ça. Il fait moins réac. Mais au début, il avait direct peut-être un peu cette image-là. Deuxième période, que je disais, donc. Par rapport aux producteurs avec qui il travaille, la période Soulquarians. En fait, Soulquarians, c'est un collectif de divers artistes noires qui viennent de diverses villes, c'est pas que à Chicago. Il y a notamment les rappeurs Q-Tip, Black Thought du groupe The Roots, Mos Def, Talib Kweli, il y a les chanteurs D'Angelo, Erykah Badu, Bilal, et il y a notamment le producteur Jay Dilla, également Questlove de The Roots, hein, qui est un peu la tête pensante de ce collectif. Et donc, les deux albums suivants, donc en 2000 et 2002, Like Water for Chocolate et Electric Circus, sont essentiellement produits par Jay Dilla et avec tout l'appui de tout ce collectif derrière. Et c'est là où il est vraiment le plus expérimental, où il se permet d'aller chercher vraiment les sonorités les plus lointaines. On entend des références à de l'afrobeat, à du blues, de la funk, du jazz, de la soul, enfin il y a vraiment tout. Même dans Electric Circus, il y a des trucs un peu pop rock, voire punk, enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Mais c'est hyper intéressant. Je considère Like Water for Chocolate comme un chef-d'œuvre. De toute façon, c'est vraiment génial. Donc allez écouter ça.
On vous mettra les noms et les albums, etc. Parce que ça fait peut-être beaucoup là, d'informations.
À la fin, on récapitulera.
Voilà, des fois, les gens nous demandent des références et tout. Maintenant, on fait bien gaffe à les mettre partout. Donc vous inquiétez pas, on vous enverra ça.
Et du coup. La période suivante pour Common, c'est la collaboration avec Kanye West. Vous avez entendu un extrait tout à l'heure, donc l'album B, qui est sorti en 2005, qui est d'ailleurs sorti le même jour que le premier album de Gucci Mane, voilà, faut le savoir. C'était aussi le jour de mes 15 ans, voilà, j'ai découvert ce petit détail. Toujours attentif à ce genre de petites histoires.
Je pense que c'est pas une coïncidence, hein, il faut le savoir.
Non mais c'est ça. Deux grands albums pour des raisons très très différentes, qui sont sortis le même jour.
Ça c'est beau.
Et donc voilà, donc... Kanye, c'est quand même un disciple de NoID, donc il y a un peu un retour, en forme d'une sorte de retour aux sources, quoi, pour Common sur ces albums-là. C'est un peu moins expérimental, mais c'est quand même hyper maîtrisé. Cet album B, c'est un super album, vraiment grosse réussite. La chimie fonctionne vraiment super bien. Après ça, il y a une période un peu plus compliquée, à la fin des années 2000, il fait un album un peu produit par les Neptunes, mais c'est un on va dire que c'est la seule fausse note dans sa discographie. Il est pas terrible quoi cet album là.
Ouais, il s'est fait un peu bâcher par sa fanbase quand c'est sorti à ce moment-là.
Ouais, bah sa fanbase, on a vu un peu toutes les couleurs parce que comme je disais, il est parti dans tellement de directions différentes que il y en a qui préfèrent telle période, d'autres une autre, etc. Mais là pour le coup, je pense qu'il a, ouais, je pense que tout le monde était plus ou moins.
Il est trop loin.
Ouais, il avait plus rien à dire en fait. Tu sentais qu'il avait plus d'inspi. Mais bon, il est revenu plus ou moins en forme quand même au début des années 2010. Il a recollaboré avec NoID, il a fait deux super albums intégralement produits par NoID. Et enfin, là, depuis 2016, il travaille avec le producteur Karim Riggins, qui est plutôt un suiveur de Jay Dilla. Donc ça fait un peu des oscillations si vous suivez bien. Il y avait d'abord NoID, ensuite Jay Dilla, ensuite Kanye West qui est un peu un nouveau NoID, et puis ensuite Karim Riggins qui est un peu un nouveau Jay Dilla. Donc, il y a un peu ce truc qui est amusant. Et il a sorti donc en 2016 l'album Black America Again, qui sonoristiquement ressemble le plus à Like Water for Chocolate. Il y a vraiment un truc blues jazz très prononcé. C'est un super album, c'est vraiment son meilleur, je dirais, depuis Bee. C'est l'album que je préfère. Donc voilà, la discographie, elle est vraiment énorme. Enfin, moi, j'aurais bien aimé m'arrêter sur chaque album et vraiment blablater 5 minutes sur chaque. Pour
donc là, il sort encore des choses aujourd'hui, par exemple.
Ouais, bah, il a sorti un album en 2019.
Il a quel âge, là?
Ouais, pas loin de 50 ans.
Ouais, 45 ans. Et je me le suis fait il n'y a pas longtemps, derrière le dernier album. Très
ouais,
cool.
Il est sympa, ouais. Il est pas mal. De toute façon, je trouve qu'à part l'album Universal Mind Control, donc produit par Pharrell, tout le reste c'est hyper solide quoi. Il y a que des bons albums.
Et du coup tu dis que c'est quand même assez divers, pourtant du coup on l'a quand même rangé dans la catégorie des middle class rap. Pourquoi?
Bah en fait parce que déjà nous on a voulu parler de Chicago et d'une toute une scène qui se passe à Chicago, et que lui il en est un peu le pionnier quoi, de ce côté là de la scène de Chicago,
qui a pas une identité peut-être au niveau sonore vraiment particulière, mais qui est plus au niveau du message.
Si je trouve qu'aujourd'hui tu sens une identité sonore vraiment, enfin quand on va parler à la fin de l'émission, on parlera des rames aujourd'hui, toute la scène où il y a pour le coup beaucoup de monde, tu sens quand même vraiment un truc, l'héritage Kanye et Common est assez lourd, enfin c'est un peu les deux artistes majeurs. Tu sens vraiment qu'il y a. Ça se sent, quoi. En termes de sonorité, vraiment, tu l'entends, quoi.
Et puis, c'est un tout, même dans les clips, tu sais, c'est pas du tout un mec qui est là, grosse voiture, gros truc pimpant. Puis, t'es aussi rangé dans le côté conscient par ses paroles.
L'imagerie aussi, ouais.
L'image qu'il a de quelqu'un de très posé, stable et tout. Même sa voix, tu vois, il a une voix quand même particulière. Donc tout ça joue dans ce rôle de rappeur conscient qu'on lui colle. Ça.
Ouais, bah, c'est. En fait, moi, je déteste l'expression rappeur conscient. Après, pour lui, je trouve que ça colle à peu près bien, parce qu'il, enfin, on peut le dire comme ça, il est conscient de sa voix, que sa voix elle a un écho, parce qu'il a une popularité, donc il l'utilise à bon escient. Il est conscient qu'il s'inscrit aussi dans un ensemble plus grand, ce que je disais, il cherche toujours à faire des ponts entre les styles de musique noire américaine, et pour essayer d'englober un peu tout ça dans sa musique, faire une sorte de rassemblement de toutes les musiques de sa communauté, on pourrait dire, voilà. Donc... voilà, sur Common, j'en reste là.
Ouais, super, bah comme on a dit, on vous fera un petit récap de tous ces titres, ces albums, etc. Allez, écoutez. On va revenir ensuite sur Kanye West, qu'on a un peu évoqué dans cette partie, et qui est quand même un des gros morceaux sur Chicago. On va s'écouter d'abord un morceau de Common, justement, avec Nak Champa.
Exactement, de l'album Like Water for Chocolate, donc, que je vous ai vendu.
Et on se retrouve tout de suite, vous êtes toujours dans Display Routine. De retour après ce son de Common, Nak Champa. On en parle toujours du middle class rap, le rap de classe moyenne. Et oui, ça existe. Et c'est à Momo de nous parler de Kanye West, un jeune prodige.
Que personne ne connaît d'ailleurs, mais on ne pouvait pas ne pas aborder le Kanye West.
Car Kanye West est né à Chicago, comme tout le monde le sait.
Et non, pas du tout, justement. Ah, il n'est pas né là-bas, ce petit coquin. Donc du coup, on n'aurait pas parlé de lui. Mais non, il est retourné vivre là-bas avec...
Il est né à Atlanta.
Il est né à Atlanta.
Position parfaite.
Donc peut-être qu'il aurait pu faire de la trappe à un moment de sa vie, mais ça a été un petit...
Ça explique beaucoup de choses, quand même.
De quoi donc, sur ses dérives?
Qu'il soit né à Atlanta.
C'est vrai. Que ça soit un douchebag fini actuellement, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'était un sacré chemin pour lui d'être connu, le petit Kanye. Mais voilà, donc il n'est pas devenu figure de proue du rap de Chicago dans les années 2000 facilement. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, on va revenir un peu sur son passé. Savoir que Kanye, il a des parents qui sont très activistes dans le milieu afro-américain. Donc il avait une mère qui était prof et son père était photographe, reporter. C'était un mec qui aimait bien aller se mélanger aux classes très populaires pour aller enquêter, voir comment ils vivaient. Et c'est quelque chose qui l'a très marqué. D'un, parce qu'il le revendique souvent dans ses textes, et en tout cas au début. Et de deux, c'est une influence sur son côté middle class rap, rap de classe moyenne, ce qui est quand même très drôle. Et il y a même des gens qui vont aller lui coller l'étiquette de bourgeois sur la tête, parce que c'est pas un mec, enfin pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il arrive avec un certain vocabulaire, il curse, enfin quand je dis il curse, ça veut dire qu'il dit des gros mots, mais c'est pas non plus à outrance. C'est quelqu'un qui est aussi arrivé avec une idée du rap où il voulait pas forcément rapper à propos de l'argent, vraiment les poncifs du rap, tu vois, les femmes, l'argent, les grosses voitures. Et il est aussi arrivé avec un style vestimentaire, on en parlait pour Common un peu plus tôt, mais avec un style vestimentaire vraiment à part. Parce que le mec, au début, il est arrivé avec des petits polos de rugby, genre Eden Park, des petits sacs à dos en cuir sur le dos, et ça te dénotait totalement avec...
Encore aujourd'hui, au niveau, c'est une égérie de la mode aussi.
Plutôt il est ultra impliqué, il a quand même sorti des paires de...
Il est très suivi.
Il est très suivi là-dessus, genre il y a quand même des stylistes et des gens de la mode qui suivent son avis, il a sorti des paires de pompes. Il avait déjà son petit style qui blaguait pas. Et puis surtout aussi, côté bourgeois, côté middle class, parce qu'il arrivait avec toute une culture soul, funk, R&B, jazz, disco, dont on a parlé un peu plus tôt, ou en tout cas dont Joji a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Et il va se servir de toute cette culture pour mettre au goût du jour une technique dans le rap, en tout cas dans la production d'instru, qui s'appelle le sample. Le sample, en grosso modo, que vous compreniez, c'est le fait d'extraire des notes ou des sons et qu'on va réutiliser pour faire un nouveau son. Enfin, pas forcément, mais grosso modo, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux en sample que moi, mais moi, c'est la vision que j'ai du sample, en tout cas.
En gros, on utilise des choses qui existent déjà, des bouts de morceaux, des extraits, même ça peut être une rythmique.
Littéralement, c'est échantillon.
Échantillon qui peut être une rythmique, une mélodie, les deux à la fois, un bout de voix qu'on peut ensuite repitcher, remodifier un petit peu. Et avec tout ça, on produit une nouvelle chose, une instru, ouais. Généralement, et donc qui n'est pas directement faite et créée... note par note par le producteur.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça va pas être du rap, mais je sais que le groupe Justice d'Electro est très fort pour ça, parce qu'ils samplent des trucs ultra connus, ils prennent des micro-bouts, et personne ne sait d'où ça sort, ils arrivent à faire des sons avec ça. Bref. Donc il va sampler beaucoup beaucoup d'artistes, des gens très connus, tu parlais tout à l'heure de Earth, Wind & Fire, il va sampler du Aretha Franklin, du Didi Sharp, Smokey Robinson, un peu de rap à l'ancienne aussi comme Public Enemy, mais je vais vraiment pas vous faire la liste parce que c'est ultra long. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Who Sampled, où vous pouvez retrouver, pas que pour Kanye West, mais pour tout le monde, les morceaux qui ont utilisé, enfin, quels samples ont été utilisés dans des morceaux, etc. Et franchement,
c'est bien foutu. Ouais.
C'est bien foutu. Si vous intéressez à savoir d'où vient un morceau, machin, c'est vraiment très cool. Et pour le coup, c'est quelque chose qui maîtrise extrêmement bien le sample, et ça va être sa marque de fabrique, d'ailleurs, pour laquelle il va se faire un peu aussi insulter par... certains acteurs du milieu, je crois notamment DJ Premier, qui va dire qu'en fait il a aucune créativité, il fait que reprendre des choses que les gens avaient fait et les mélanger à sa sauce. Moi, je trouve que c'est un peu faux, parce que en vrai, tu peux te servir d'un matériau de base et au final en donner ouais, autre chose après.
C'est le principe du sample. En fait. Ouais. Enfin, à l'époque, on faisait les mêmes critiques aussi quand à New York, ils ont commencé à utiliser des samples. Donc, ouais. Pour le coup, DJ Premier,
il est un peu
fait un peu vieux con aussi.
Ouais, il a fait le réac, donc c'est une soirée réac aussi aujourd'hui. Et donc, il va péter comment ? En milieu des années 2001. Vraiment, quand il va s'occuper du classique The Blueprint de Jay-Z, et il va produire pas mal de sons dessus, notamment Iso, qui est un des bangers de Jay-Z dans ces années-là, et aussi Takeover, qui est le son du clash entre Jay-Z et Nas, qui était clairement là au pic du clash entre les deux mastodontes de New York. Et c'est là où ça va commencer à s'enchaîner, parce que... il va commencer à produire pour plein de gens, et même au-delà de la production de son, il va carrément gérer l'identité musicale de certains artistes. Donc il va produire des trucs pour Beyoncé, Alicia Keys, là ça va pas forcément être de l'identité musicale, mais ça va être le cas pour Common, bien que c'est quelqu'un qui ait une identité musicale très forte. Bi, c'est vraiment, comme le disait Jojo, c'est la fusion parfaite entre les deux, quoi. C'est incroyable.
Il fait la direction artistique.
Ouais, voilà, c'est
mais
ça.
Du coup, il a son studio, il fait quoi, il est...
Ça je pourrais pas te dire, mais je pense qu'il y avait un gros truc où ils se retrouvaient tous, d'ailleurs, où il t'a fait avec Pharrell Williams, Timbaland, certains mecs, où je pense qu'après il était quand même mobile, hein. Il était pas genre un endroit, enfin, c'était pas genre le Kanye West Place où il faisait tous ces trucs. ou peut-être que c'est le cas, mais je ne sais pas. Je sais qu'il a aussi travaillé avec John Legend, c'est pas du rap, mais là on est plus sur de la voix, et pareil sur son premier album.
Une sorte de crooner moderne.
Ouais, voilà. On est tous fans de John Legend un peu. Et son album Guilty Feet, le premier, pareil, c'est clairement estampillé Kanye West. Et il va travailler aussi avec les mecs de State Property, qui est le groupe de Rockefeller, qui est le label de Jay-Z. Là aussi, on vous fera un petit sujet là-dessus. Et même quand on parlera de Philadelphie, on va revenir là-dessus. Et voilà, disciple de No ID, comme disait Jojo, parce que je voulais un peu revenir là-dessus, parce que je parlais de State Property, mais c'est No ID qui lui apprend un peu les ficelles du métier. C'est lui qui le fait signer sur Rockefeller, donc le label de Jay-Z. C'est lui qui le fait rencontrer Jay-Z. Il travaille avec lui sur son label Good Music. C'est lui qui produit son dernier album Jesus Is Born. Donc No ID a vraiment une grande grande place dans la vie de Kanye West, qui dédicace d'ailleurs dans son premier album College Dropout. Et c'est parfait parce que je vais embrayer là-dessus. Kanye, il explose littéralement avec ces deux albums là, le premier College Dropout et le deuxième Late Registration.
Il sort en quelle année? Parce que du coup là il a fait quelques années où il est juste producteur, là il se lance dans le rap lui-même.
Exactement, et c'est en 2004 où l'album College Dropout
sort. C'est lui-même qui se...
Ah, il fait beaucoup de trucs, il travaille avec d'autres rappeurs et d'autres producteurs, mais il fait 90% de son album tout seul comme un grand garçon. Et c'est des albums en termes de prod où clairement il a une maîtrise absolue. Par contre c'est plus au niveau du rap où il a encore, en tout cas sur le premier, des preuves à faire. Il est bon mais...
C'est vrai qu'à l'époque, il cherche vraiment à être un rappeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il n'en a plus rien à foutre. Mais...
Il se débattait avec cette étiquette de producteur et on ne le prenait pas forcément méga au sérieux à ce moment-là. Et clair et net que là, il a mis une gifle à tout le monde avec ce premier album. Et moi, je trouve l'album, enfin, c'est un de mes classiques dans la vie, parce qu'il parle de tellement de choses dedans. Il a parlé de la religion sur Jesus Walk, il a un accident de voiture avant d'enregistrer son album, il enregistre la mâchoire pétée, un peu comme 50 Cent, des relations humaines, des problèmes de conscience, du consumérisme, du statut de célébrité, de la place des Afro-Américains aux USA, tu vois. Moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué un peu plus jeune, dans All Falls Down, où il dit « Even if you win a Benz, you're still a nigger in a coupe ». Donc en gros, même si t'es un Afro-Américain qui a réussi, qui a une putain de voiture de classe, etc., bah en fait tu restes qu'un noir dans une boîte, quoi. T'es pas grand chose.
Après, il est pas dans le rap conscient comme Common.
Bah, c'est entre les deux, parce qu'il a, en fait, il a voulu même être totalement dans le consumérisme, vouloir des bêtes de sape, et en même temps se dire mais les sapes que j'achète, c'est de l'argent qui vont aux blancs qui ont de l'argent, et en fait je sers pas du tout ma communauté. Donc il a un pied dans les deux cases, tu vois.
Et donc ça reste du rap par contre gentillet, comme on disait tout à l'heure, justement, ouais, qui est, ouais, dans cette catégorie. Par exemple, à qui il vend des albums, est-ce que c'est plus...
Il en vend à tout le monde, en vrai. Il parle à tout le monde.
Pas peut-être pas aux mecs comme aux étudiants blancs, je sais pas.
C'est pas non plus un mec qui va concerner les gars de la street qui vont vouloir d'autres choses. Il y a d'autres rap, de toute façon c'est tellement vaste qu'ils vont pas forcément se tourner vers Kanye. En tout cas, il va gagner en crédibilité, clairement, avec ce premier album, et encore plus avec le deuxième, Late Registration, parce qu'il va passer un cap en termes de prod. Il va travailler avec un mec qui s'appelle John Bryan sur tout l'album, qui est un producteur et un musicien de cinéma, qui va lui faire tous ses arrangements et tout, et ça se sent en termes de qualité, même en termes de lyrics, on va passer un cap. Et voilà. Et moi, je trouve que ce qui est bien avec la disco de Kanye, c'est qu'il apporte tout le temps un truc, il avance tout le temps, il est jamais dans la redite. Tu vois, sur Graduation, c'est l'album qui sort après, il va sampler les Daft Punk, il va collab entre eux, entre guillemets, avec eux, il va ramener un petit univers coloré, japonais, machin. Dans 808 Tenor Break, il va clairement ramener aussi l'utilisation de l'autotune. En fait, l'autotune commençait à revenir un peu, mais lui, il s'en est servi genre pour accentuer le côté triste et pas le côté enjoué, tu vois. Moi, c'est un album qui m'a marqué sur là.
Il a clairement changé la face du game, enfin, cet album, dans l'utilisation de l'autotune qu'il fait.
Dans cet album, il arrive à transmettre aussi une sorte de mal-être qu'il avait à ce moment-là, enfin, qui tombe à un moment de sa vie aussi, qui correspond à ça. Mais donc, oui, il arrive toujours à expérimenter, à être un peu précurseur aussi.
Bah, Graduation, il avait vraiment fait un album pop, quoi, les vrais. C'est la première fois qu'un album, je pense, avait cette sonorité pop à ce moment-là.
Et réussi aussi.
Ouais, qui est extrêmement réussi.
Personnellement, j'aime moins cet album.
Moi, j'aime bien. Enfin, pour dire jusqu'où je vais m'arrêter à Kanye, parce que... même après, sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pareil, il est aussi dans ce côté pop, mais un peu puissant, grave, énergique, qu'il a pas forcément sur d'autres sons ou d'autres albums.
Je le trouve pour le coup beaucoup plus réussi, celui-là.
Celui-là, moi, j'ai mis un peu de temps à l'aimer, mais je le kiffe vraiment bien aussi.
Bah, c'est un peu le problème, c'est qu'on pourrait faire une émission sur chaque album, que tout le monde, même dans ceux qui nous écoutent, doivent avoir leur petit favori, mais que ça va être dur à départager. C'est pourquoi je vous propose de faire un duel.
Ouh là, c'est l'heure du duel.
C'est parti.
Lâche ton revolver, Lola.
C'est donc l'heure du duel, une de nos nouvelles rubriques. Ça va être un fight entre nos deux chroniqueurs, Momo et Joachim. Et chacun va défendre un album de Kanye West. J'espère que vous n'avez pas choisi le même, sinon on est dans la merde.
Moi, clairement, c'est College Dropout, le premier album.
Attends. Du coup, je vais vous laisser une minute chacun. Allez, Jojo, tu vas commencer. Je vais te laisser une minute pour défendre ton album favori. 3, 2, 1, c'est parti.
Déjà, je sais même pas exactement quel album je voulais choisir. Je vais quand même prendre justement My Beautiful Dark Twisted Fantasy qu'on vient d'évoquer. Parce que c'est pas forcément mon préféré, mais je trouve que c'est celui où Kanye atteint, on va dire qu'il atteint la plénitude de tout ce qu'il voudrait faire en fait. Enfin, cet album est parfaitement réussi. C'est un album de pop, c'est Michael Jackson en fait cet album. Il dépasse complètement son statut de producteur de rap à la base. Les invités, ils sont parfaits. Enfin, il y a le couplet. S'il y a bien un couplet qu'on peut retenir de la carrière de Nicki Minaj, c'est celui de Monster de cet album-là.
What up?
Il y a, enfin, le morceau avec Pusha T qui dure 9 minutes, là, Runaway. Pareil, c'est incroyable. Et Pusha T est excellent dessus. Enfin, tous les invités sont parfaits. Les prods, enfin, laisse tomber. C'est un blockbuster, quoi. Genre, le son avec Rihanna, pareil, tu peux rien dire, quoi. C'est hyper bien produit.
Ok,
hyper
ok, bien ok, foutu. Ok, très bien. Ça fait une minute déjà.
Ok, donc j'ai
tu l'as défendu vaillamment. Écoute, moi je l'aime bien aussi de toute façon, donc j'irai pas à ton rencontre. Momo va essayer de nous proposer lui son petit album perso. On sait déjà lequel c'est, il l'a déjà annoncé. Allez, vas-y, t'as
vu. Oui, c'est The College Dropout. Moi j'aime bien les premières fois à chaque fois, je vous dirai pas pourquoi, mais bon. College Dropout, parce que c'est son premier album, donc t'as encore des petites fautes du début. Et quand tu fais une rétrospective de sa carrière, tu dis que c'est quand même dingue qu'il commence avec un album aussi fort en fait. Généralement, c'est pas tous les artistes qui arrivent avec un album de dingue comme ça. Le sample est maîtrisé.
C'est aussi parce qu'il a attendu.
Pas d'interruption pendant le duel.
Merci Jojo qui essaie de me barrer la route.
Je te rajoute 5 secondes.
Merci, tu es très gentil. Et puis voilà, en termes de production, c'est ultra maîtrisé. Et moi, c'est vraiment le panel de sujets abordés dans le truc qui m'ont vraiment touché à titre perso, parce qu'il va parler de religion, c'est un mec qui parle de terrorisme, c'est un mec qui parle d'amour, c'est un mec qui parle de conscience, de rapport à même aux autres, quoi. Il se dit qu'en fait je suis pas meilleur que les autres, moi aussi je suis une merde, mais je suis juste, par contre moi j'assume de le dire, et il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu le cul, les gars. C'est un mec qui essaye aussi dans le fond de taper dans la fourmilière, et puis tous ses feats sont ultra bien réussis. Au niveau des prods, Get 'Em High avec Talib Kweli, Common, c'est de la balle. Les petits interludes qu'il fait sont géniaux.
Ok. Bon, je retiendrai qu'il dit que c'est une merde à l'époque.
Il le savait au moins.
Voilà, à l'époque il le savait, maintenant il le sait peut-être un peu moins. Merci d'avoir défendu ces deux albums. Moi perso, c'est aucun des deux.
Oui, toi tu préfères Watch the Throne, son featuring avec Jay-Z.
Pas du tout. Et donc je te laisse terminer. Peut-être t'avais dit tout ce que t'avais à dire sur l'ami Kanye.
Quasiment sur l'ami Kanye West. Le mec, enfin voilà, comme je disais, il se renouvelle constamment. Il a une énorme discographie. Moi j'ai arrêté après Watch the Throne parce que j'ai eu un peu un problème directement avec Kanye. Et du coup moi je suis quelqu'un qui lie l'amour que j'ai pour la musique d'un artiste avec l'amour que j'ai pour l'artiste. Si je commence à plus l'aimer ou qu'il m'énerve, il se peut que j'écoute plus. Ça s'est passé avec Kanye. Par contre, le dernier album, Jesus Is Born, j'ai écouté. Format court, j'ai bien kiffé.
C'est Jesus Is Born, c'est le truc de gospel.
Et ben, ça me permet d'ailleurs de rebondir sur cette histoire de gospel, parce que là, Kanye, il est dans un délire. On m'a fait découvrir récemment une personne à qui je tiens, qui m'a fait découvrir un petit truc sympa où il fait des messes de 2 heures.
Moi je trouve ça un peu chiant, mais
chacun son truc. Mais en tout cas, il appelle souvent Jésus, et moi je trouve ça fou.
Il
parce
fait pas les choses à moitié, hein.
Non.
Et quand il a un truc en tête, il y va à fond.
Et
quoi.
Je trouve ça très prenant de voir cette foule de 200-300 personnes réunies avec lui en train de chanter les louanges. Voilà, moi je pense que quelle que soit ta religion, tu peux trouver ça beau. Même si tu n'as pas de religion, peu importe.
C'est des gens payés parce qu'il est riche.
C'est pas grave, moi j'aime tout ça, tu vois. Ça me donne des goosebumps, comme on dit dans le milieu, en tout cas en anglais. Et voilà, le mec est partout. dans la mode, dans la musique, dans la religion, dans le gospel, dans les frites, dans la politique.
Make America Great Again. Il est passé au KFC de Paris il n'y a pas longtemps.
De Saint-Denis avec
plaque commémorative derrière de son passage.
De Strasbourg-Saint-Denis, oui.
Car il a commandé à la borne avec Kim Kardashian.
Ils vont appeler d'ailleurs un menu Kanye West au
j'ai essayé de le capter pour qu'il fasse l'émission avec nous, mais c'était un peu dur et beaucoup trop cher pour nous.
Et puis je pense que de toute façon, il ne nous mérite pas de toute manière. Anyway, on va s'écouter un petit son de Kanye West, un de mes préférés de toute sa discographie, qui s'appelle Through the Wire. Qui extrait l'album College Dropout sorti en 2004 comme je le disais, et on se retrouve juste après.
Vous êtes toujours dans Deeply Rooted pour parler rap US. On s'intéresse ce soir au middle class rap, le rap de classe moyenne. On vient de parler longuement de Kanye West et de s'écouter Through the Wire, qui est extrait de College Dropout sorti en 2004, et qui fait toujours chaud au cœur à écouter.
Quel kiff.
Et Momo, tu vas aussi nous parler rapidement de Lupe Fiasco.
Ouais, qu'on savait alors pas comment classer, mais disons que c'est quelqu'un qui est apparu aussi dans le milieu des années 2000, en même temps que Kanye, mais qui avait déjà qui a moins explosé que lui, et puis qui a une place un peu plus particulière, parce qu'il est un peu extrémiste dans sa tête, le Lupe Fiasco. Mais il mérite sa place, parce qu'il est clairement dans ce truc-là de rap middle class, c'est quelqu'un de très conscient, lui qui est plus porté aussi, au début en tout cas, que... sur le côté spirituel de la chose et qui se politise très très vite. Et moi ce que j'ai bien aimé avec lui c'est que c'est quelqu'un de très versatile. Pour le coup on parlait de Pharrell Williams et des Neptunes tout à l'heure. Lui il est capable de poser sur des tracks enjoués des Neptunes comme d'être sur du boom bap pardon, c'est-à-dire du rap à l'ancienne années 80-90 et ou des prods de soul avec des samples etc. Et il a aussi une approche très sociale du rap, éducative, et c'est quelqu'un qui aime bien parler à son audimat, notamment sur son premier album Food and Liquor que j'ai vraiment bien aimé. Pour la petite anecdote, Food and Liquor, lui, il l'expliquait comme food, c'est ce dont ton corps a besoin, et le liquor, c'est ce dont ton corps peut se passer, mais au final, t'as peut-être besoin de ça aussi, tu vois. Donc il y a le côté bien mal, le nécessaire, le pas nécessaire, etc. Et voilà, c'est un des premiers rappeurs qui va parler de ce qui s'est passé post-attentat, de l'islam, du terrorisme aussi à ce moment-là.
Un sujet qui te parle tout particulièrement, et comme oui. Les auditeurs pour donc islam, terroriste.
Exactement.
Ok, Momo.
Bah oui, tu sais.
D'avoir travaillé avec toi.
Je sais, je vais être fiché Z sous très peu. Et voilà, donc ça c'était sur son premier album. Il a sorti un Food and Liquor 2 un peu plus tard aussi qui est très réussi. Il est un peu dans ce délire de spoken word. D'ailleurs, je crois qu'il s'était fait virer d'un truc d'Obama. Il devait chanter un meeting d'Obama, il s'est fait virer parce qu'il commençait à parler mal de je sais pas qui. Ou de Bush, je sais plus, mais pour la petite anecdote, faudrait qu'on trouve.
Plus d'Obama, je pense. Parce ouais. Je pense qu'il n'est pas allé jusqu'à faire un truc pour Bush, tu vois.
Ouais, non, c'est ce que je me dis. Moi, demi-mort, c'était Obama. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est encore en activité, qui est très très doué. Il fallait qu'on en parle et pas le
zapper. Et puis, on le mettra dans la playlist de l'émission, sûrement.
Et carrément.
Que vous retrouvez tout à chaque fois, quelques jours après la sortie de l'émission, pour compléter un peu tout ce qu'on a dit, parce qu'on n'a pas le temps de passer tout le monde. Alors, on va continuer dans le middle class rap avec un bon élève de la classe moyenne, qui est Chance le rappeur.
Bon, en fait, c'est surtout qu'on va évoquer le. Réellement, pourquoi est-ce qu'on fait cette émission ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une scène qui...
Pour parler de Chance the Rapper ?
Ouais, bah en fait, c'est venu avec Chance the Rapper, justement. Toute cette nouvelle scène de Chicago, c'est un peu... Chance the Rapper, c'est le premier, au début des années 2010, donc qui a émergé. Pour le coup, on peut vraiment parler de middle class, parce que lui, son père, a bossé avec le maire de Chicago, et puis avec Obama. Sa mère, pareil, était dans les trucs de la justice, etc., donc... quand même une famille assez aisée, je sais même pas si on peut encore dire middle class, mais bon, en tout cas on est clairement loin de la street. Chance the Rapper, c'est quelqu'un qui est plus chanteur que rappeur en fin de compte. Il est influencé par Lil Wayne et Young Thug, même s'il sort à peu près en même temps que Young Thug, l'influence au fur et à mesure se fait quand même assez ressentir. Il se fait surtout connaître avec sa deuxième tape Acid Rap qui sort en 2013, qui est assez cool, mais moi je personnellement m'avait un peu saoulé à force. Voilà, sa plus grande inspiration c'est quand même aussi Kanye West, enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a une sorte de continuité à Chicago. Mais voilà, moi je suis pas forcément un grand fan de Chance the Rapper, mais il a sorti quand même un album assez cool en 2016 qui est Coloring Book, un peu dans le même ton que Kanye West maintenant, tout ce qu'il fait en mode gospel et tout, il est un peu dans cette même vibe là. C'est un peu le Christian rap, la version chrétienne de Young Thug, si on veut.
Ce qui est quand même pas mal, hein, d'ailleurs. En tout cas, on lui a laissé sa chance. Hein.
Et voilà, non, en tout cas, c'est quand même la tête de gondole de toute cette génération qui est venue avec lui. Il y avait son crew de Save Money, comme Vic Mensa, Joe Perp, Tokyo. Voilà, il y a plein de têtes dont on va parler maintenant d'ailleurs.
Ouais, bah, il nous reste pas beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est de défendre un artiste dont on n'a pas pu parler dans l'émission jusqu'à présent. Ça va être votre coup de cœur.
Et moi, c'est Mick Jenkins, que j'ai découvert sur le tard l'année dernière, alors que le mec a quand même déboulé en 2014 dans le game avec sa mixtape The Waters. Et il s'est vite fait remarquer pour plusieurs raisons, parce que pareil, lui était dans les thèmes, c'était très spirituel, parce que c'est dû à son éducation et sa famille qui était très 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 dans la religion. C'est quelqu'un de plutôt conscient, même si le terme est galvaudé. Et puis il a surtout une voix très grave, un peu comme la mienne d'ailleurs, totalement faux, et qui se marie très bien avec les prods sur lesquels il pose. Et c'est un mec qui a été vite considéré aussi comme une des nouvelles têtes de Chicago avec Chance the Rapper, mais qui a eu en tout cas qui est moins exposé au grand public que lui. Pour l'anecdote aussi, c'est quelqu'un qui faisait du théâtre et qui a un petit côté acting qui est sympa. Il était vite confronté à l'écriture. Ce qui explique aussi qu'il est très doué pour les jeux de mots dans ses lyrics. Et moi, je kiffe vraiment ce qu'il fait, c'est très éclectique. Et surtout okay. Parce qu'il a collaboré avec Etranada. Voilà.
Très bien. Donc Mick Jenkins et toi Jojo, t'as une minute aussi.
Moi, je vais en profiter pour parler de trois rappeurs en fait qui ont formé un collectif, enfin un petit trio assez éphémère. Ils ont fait un morceau ensemble, mais du coup, ça me permet de parler des trois. Ça s'appelle Ghetto Sage et donc il y a d'abord Saba qui a sorti plusieurs projets et notamment Care For Me en 2018, qui est vraiment super lourd et bon, lui c'est un peu le torturé du groupe. Il y a aussi son groupe à lui qui s'appelle Pivot Gang. Deuxième dans ce trio, il y a No Name qui est une rappeuse qui a sorti deux projets, dont le dernier Room 25, qui est vraiment lourd, vraiment cool et enfin voilà, dans la vibe un peu de Common, très éclectique. On va chercher des prods soulful, jazz, etc. Et le troisième, c'est Smino qui lui ne vient pas de Chicago mais qui s'y est installé et qui bosse que avec des mecs là-bas. Alors lui, c'est une sorte de Young Thug, mais complètement épuré. Enfin, il chante plus qu'il ne rappe. Et ouais, c'est vraiment Young Thug sans tout le côté digital. Quoi, t'enlèves tout ce qui est digital dans les prods. Enfin, du coup, c'est des prods très épurés, très sèches. Mais ça sonne super bien. Et le dernier album noir de Smino est super cool. Donc voilà, trois rappeurs comme ça que je recommande.
T'as pas du tout respecté les consignes et t'as fait trois rappeurs.
Je l'avais annoncé, j'ai dit que moi je prendrais le groupe Ghetto Sage.
Pivot Gang, tout ça.
Et Ghetto Sage, c'est trois rappeurs. Donc j'ai parlé des trois rappeurs. Bien. Voilà.
Ce qui nous a donc permis de faire un tour plutôt complet de la scène de Chicago et donc de ce rap, de ce middle class rap qu'on a évoqué, cette catégorie voilà, qui englobe un peu ces rappeurs gentils et propres. Vous avez un petit mot à rajouter peut-être sur ce genre-là qui a pu se faire ailleurs ou alors à Chicago, un truc qu'on a oublié, Momo ?
Chicago non, mais revenir sur Kid Cudi que le grand public connaît et qui est influencé par ce style-là et qui l'a aussi influencé. C'est un mec de Cleveland, pas très loin non plus. Mais voilà, réécoutez le premier album de Kid Cudi, même cette discographie, très très cool.
Ok. Joachim ?
J'aurais bien aimé qu'on ait plus de temps pour développer, notamment sur les artistes récents. Rien de spécial à ajouter, si ce n'est d'aller écouter Like Water for Chocolate, c'est le meilleur album de Common.
Et College Dropout de Kanye West, bien évidemment.
Très bien, bah de toute façon on va tout vous mettre sur le site internet, donc www.deeplyrooted.fr, Deeplyrooted l'émission sur Facebook, n'hésitez pas à aller checker. On va compléter l'émission avec des playlists, avec des articles s'il faut, avec des noms, des références, etc. Le but du site, c'est justement de regrouper tout ça pour aller plus loin et développer ce qu'on n'a pas eu le temps dans l'émission. Merci à vous pour cette émission sur Chicago qui était plutôt cool à l'image de la musique ouais. Qu'on présentait ce soir.
Bah, merci à toi, merci à Jojo et surtout merci à Kanye West sans qui on n'existerait pas, ne l'oubliez pas.
Et on va partir sur deux sons cette fois-ci, un de Mick Jenkins que Momo a évoqué tout à l'heure qui est Your Love avec une prod donc, de Etranada qui est extrait de l'album Wave sorti en 2015.
Mais et... juste avant, ouais, on va écouter Cocoa Butter Kisses de Chance the Rapper. Featuring Twista et Vic Mensa, qui sont aussi des artistes de Chicago, qui est un son extrait de l'album Acid Rap, sorti en 2013.
Et on vous dit au mois prochain.
Yes, à bientôt.
Ciao. À bientôt, ciao.